chronique Actualité internationale en compagnie de François La Rochelle, qu'on retrouve avec grand plaisir. Bonjour, Monsieur La Rochelle.
Bonjour, Madame Denis.
Ancien diplomate canadien. Et puis aujourd'hui, vous allez faire une sorte de mise à jour sur les grands dossiers internationaux des derniers mois. Évidemment, il y a la situation à Gaza et la guerre Russie-Ukraine, deux conflits qui continuent de faire des victimes et des destructions.
Oui, en effet, commençons par la situation là, à Gaza. Au cours de l'été, la situation des Gazaouis ne s'est pas améliorée, bien au contraire. La dégradation de leur situation est maintenant tout simplement hallucinante. Les experts n'hésitent plus à parler de génocide. Malgré tous les efforts des autorités israéliennes pour la cacher, elle s'affiche quotidiennement au fût et au su de nos dirigeants et du public. Un organisme des Nations unies a confirmé qu'une famine se déroulait à Gaza. Bien qu'en partie reprise depuis quelques semaines, l'aide alimentaire internationale, notamment par des parachutages, est clairement insuffisante. La mise à l'écart des organisations non gouvernementales et des agences des Nations unies dans la distribution de cette aide par une obscure fondation créée et contrôlée par Israël a produit des effets catastrophiques. Des distributions chaotiques et sanglantes, car on meurt aussi à Gaza en essayant simplement d'obtenir un peu de nourriture. Les victimes de la malnutrition se trouvent chez les plus faibles, c'est-à-dire les enfants, les malades et les personnes âgées. Cette catastrophe humanitaire ne se serait jamais produite si le gouvernement israélien n'avait pas décidé d'user de la faim comme d'une arme malgré ses dénégations. La nouvelle offensive militaire de l'État hébreu pour prendre la ville de Gaza pourrait rendre cette famine encore plus dévastatrice. On compte plus de 63 000 morts à Gaza, en grande majorité des civils, femmes et enfants. Ce triste bilan ne cesse de grandir tous les jours. Le gouvernement Netanyahou veut, semble-t-il, rendre Gaza invivable et pousser ses habitants à l'exil. Et maintenant, il y a ce plan surréaliste américano-israélien pour qu'une fois vidée de ses habitants, Gaza devienne un parc touristico-technologique. C'est de la folie furieuse.
Oui. Et ceci dit, le gouvernement de Netanyahou demeure sourd aux appels de la communauté internationale et même de sa propre population.
Netanyahou veut essentiellement garder le pouvoir et retarder les procès pour corruption contre lui. Pour cela, il a besoin de l'appui des partis d'extrême droite qui veulent que la guerre continue, avec le plein soutien, faut-il le dire, de l'administration Trump jusqu'à maintenant.
En parallèle, Israël accélère la colonisation de la Cisjordanie.
Les colons protégés par les soldats israéliens s'en prennent aux Palestiniens en Cisjordanie, brûlent leurs fermes et tuent en toute impunité. Un vaste projet pour la construction de plus de 3000 appartements visant à compliquer la création d'un éventuel État palestinien vient d'ailleurs d'être approuvé par le gouvernement israélien. Les soutiens politiques de Netanyahou, et qui sait sans doute lui-même, rêvent d'annexer la Jordanie d'ailleurs.
Donc, plus d'espoir de voir cette tragédie se terminer bientôt?
Non. À moins d'un retournement imprévu ou que les pressions de la majorité d'Israéliens qui veulent que cette guerre se termine et que les otages soient libérés finissent par avoir un effet sur le gouvernement israélien. Mais pour l'instant, c'est peu probable. Je voudrais quand même souligner un élément positif, c'est que depuis l'arrivée du premier ministre Carney, le Canada affiche des positions beaucoup plus fortes que celles de son prédécesseur vis-à-vis d'Israël. La reconnaissance de la Palestine comme un État, prévue officiellement en septembre aux Nations unies par une vingtaine de pays, dont le Canada, est une décision courageuse et il faut espérer qu'elle va se concrétiser.
Bien sûr. Concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, maintenant, c'est la visite de Poutine en Alaska pour rencontrer Trump qui a fait les manchettes.
Oui, en fait, c'était un gros show de boucan, comme on dit. Ce sommet du 15 août s'est achevé sans perspective concrète de la fin de la guerre, ni même d'un cessez-le-feu en Ukraine. Il a, comme prévu, tourné à l'avantage du président russe qui a été réhabilité sur la scène mondiale par cette opération. Pourtant recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, M. Poutine a été reçu avec tous les honneurs réservés à un honorable chef de grande puissance. Pour exprimer sa reconnaissance, il a même repris à son compte un grief cher au cœur de Trump que l'élection présidentielle de 2020 avait été frauduleuse. Poutine a même convaincu Trump que les machines électorales étaient truquées. Ce dernier veut d'ailleurs passer désormais une loi pour les interdire.
Excusez.
Pour le reste, rien de nouveau. M. Poutine s'est contenté de réitérer les causes profondes de son conflit avec l'Ukraine. Pour sa part, Trump n'a pas tari d'éloges sur son ami Vladimir. Il s'est limité à évoquer un éventuel sommet trilatéral avec les présidents russes et ukrainiens. Quant au sommet bilatéral entre Zelensky et Poutine, censé le précéder, on n'en parle déjà plus. Selon Washington, la Russie aurait accepté cependant que l'Ukraine puisse bénéficier de garanties de sécurité en dehors de l'OTAN. Mais Moscou la rend conditionnelle à ses propres intérêts. Et en fait, depuis le sommet, les bombardements russes par drones et missiles sur l'Ukraine se sont intensifiés. Les paramètres essentiels de la crise ukrainienne demeurent et personne ne veut faire la guerre à la Russie qui joue de la menace nucléaire.
En terminant, vous voulez souligner un moment surréaliste. Bien, c'est surréaliste depuis le début, oui. Ce qu'on entend. mais un moment particulier des derniers mois politique étrangère.
Oui, comme vous le dites, il y a effectivement eu beaucoup de moments surréalistes au cours des derniers mois. Mais celui qui m'a vraiment frappé, moi, c'est quand Netanyahou, qui était en visite à Washington, a remis à Trump une lettre de soutien du gouvernement israélien pour que ce dernier reçoive le prix Nobel de la paix. Venant d'un chef de gouvernement soupçonné de crimes de guerre et contre lequel s'applique un mandat d'arrestation de la Cour pénale internationale, c'était totalement absurde. Cette séance de flagornerie a malheureusement fonctionné, semble-t-il, car Netanyahou a depuis obtenu une carte blanche concrète, complète et concrète pour agir dans la région.
Oui, la mâchoire nous tombe.
Tout à fait.
Et ça continue.
Voilà.
Merci beaucoup, François Larochelle, ancien diplomate canadien. On va se retrouver dans un mois environ.
Tout à fait.
Merci.
Allez, au revoir.